Radio Okapi. Écho du développement.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et du développement durable de Radio Okapi. Tati Mapoukwa sur la présentation de ce numéro, Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise cette émission, Mimi Kim doit être à la prise des sons. Comment lier la santé humaine, la santé animale et l'environnement en RDC? C'est le sujet que nous abordons dans ce numéro d'Écho du développement. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de rester branché sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La santé humaine, la santé animale et le secteur de l'environnement font partie des domaines largement interdépendants. Les spécialistes de ces trois secteurs prônent une collaboration parfaite entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et l'écologie afin de garantir une seule santé dans une communauté. Comment allier la santé humaine, la santé animale et le secteur de l'environnement en RDC? Quelles sont les conséquences qui peuvent découler du non-respect de ces principes largement défendus par les académiciens? Des réponses à ces questions, vous les aurez sans doute dans ce nouveau numéro des Codes du développement qui débute avec les propos de Kamalan Douadani, un détenteur d'un animal de compagnie. Il nous relate la manière dont il prend soin de son chien afin de prévenir certains ennuis de santé de son animal de compagnie et des membres de sa famille.
Est-ce que vous détenez un animal de compagnie?
Bien sûr que oui.
De quel animal il s'agit?
C'est un chien de la race bichon, des chiens de petite taille, tout blanc.
Ok. Vous aimez bien ce chien-là?
Bien sûr que oui.
Et dis-moi, au niveau de la maison, comment est-ce que tu t'organises pour son entretien et pour son environnement avec la famille, les enfants et l'entourage?
Ben écoute, au départ, un chien, il fait partie des membres des familles. Donc, primo, quand je me lève le matin, la première des choses, je commence à faire les entretiens. On commence par nettoyer ses assiettes, les brosser, mettre de l'eau à sa disposition. Et il mange deux fois par jour. C'est-à-dire, donc, je laisse la nourriture le matin. En rentrant à la maison aussi, donc, je le sers aussi à manger.
Mais est-ce que vous savez également que c'est important de bien entretenir la parcelle, même l'animal de compagnie que vous détenez, pour éviter la contamination de certaines maladies?
Il est très important de le faire parce que donc il y a des maladies qu'on appelle zoonoses qui quittent chez chiens vers les humains. Donc c'est pour cela qu'il est recommandé de pouvoir nettoyer, faire l'entretien chaque fois, donc matin et le soir. Donc voilà.
Et est-ce que vous amenez aussi, vous faites vacciner régulièrement aussi votre animal de compagnie?
Justement, on fait vacciner les chiens puisque il y a des maladies aussi, comment dirais-je, qui quittent de l'homme. Qui quitte par deux chez un chien pour traverser chez un homme, chez les humains, telle que la maladie contre la rage, qui est la maladie virale, qui atteint aussi les humains. Donc, il faut pouvoir vacciner les chiens pour assurer sa santé.
Merci à M. Kamalan Douadani d'avoir accepté de donner son témoignage au micro des Codes du développement. Qu'entendez-vous par une seule santé? Une seule santé veut tout simplement dire qu'il faut prendre dans son ensemble les risques pour la santé humaine, la santé des animaux sauvages ou domestiques et de l'environnement dans lequel vivent ces espèces, comme l'explique Dr Florent Gamouna, médecin vétérinaire.
En fait, il faut se poser la question pourquoi l'homme est malade. L'homme est malade parce que il y a un dysfonctionnement de son organisme dû pour la plupart des temps à certains microbes qui attaquent son organisme. Et ces microbes se retrouvent peut-être chez l'homme, mais peuvent se retrouver aussi chez les animaux et dans l'environnement en général.
Mmh.
C'est comme ça que de plus en plus l'évolution est là pour que l'homme soit en bonne santé, il faut que les trois secteurs soient interdépendants pour gérer, n'est-ce pas, la santé humaine. Pour éviter qu'il y ait transmission des microbes, de l'environnement vers l'homme et des animaux vers l'homme.
Voilà. Et quel est le constat que vous faites sur terrain ici en RDC?
En RDC,
cette approche,
oui, le problème c'est que c'est un nouveau concept, n'est-ce pas, qui vient de voir le jour, qui n'est pas encore très bien assis. De toutes les façons, pour qu'il soit bien assis, il faut des moyens. Il faut que les ressources humaines soient formées par rapport à ça. Et de ce côté-là, il y a une certaine déficience. Du côté santé humaine, il y a la formation qui s'est faite. Du côté santé animale, il y a la formation qui s'est faite. Du côté santé environnementale, il y a la formation qui s'est faite. Mais cette interdépendance n'est pas encore totale.
Une seule santé est une notion connue depuis plus d'un siècle, à savoir que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels l'homme, l'animal et l'écologie interagissent. Nous allons suivre les explications du docteur Pierre Verhaeg, médecin vétérinaire à la clinique vétérinaire laquinoise.
Je pense qu'il faut voir un petit peu historiquement les choses. Au départ, avec les progrès scientifiques de la médecine, on a trouvé qu'il y avait des bactéries, des virus, des parasites qui créaient des maladies chez les humains, et puis on en trouvait qui faisaient des maladies chez les animaux aussi. Mais les choses étaient relativement séparées parce que culturellement, l'homme était considéré comme un petit peu à part du reste de la nature. Avec l'évolution des connaissances et surtout l'évolution des problèmes au niveau planétaire, dans le domaine de l'écologie, on s'est rendu compte progressivement que cet ensemble de choses formait un tout et que entre tous ces éléments, il y avait des relations. Par conséquent, il ne s'agit pas simplement de soigner, par exemple, la tuberculose chez les vaches, parce que cette tuberculose vient bien de quelque part, ou peut aller quelque part, et que la transmission de telle ou telle maladie peut être en relation avec un problème écologique d'équilibre naturel, ou de rupture d'équilibre naturel. Donc, il est venu normalement à l'esprit de considérer l'aspect de la santé comme étant un problème concernant toutes les espèces vivantes plutôt que simplement l'humain qui serait au sommet d'une certaine pyramide et qui ne serait pas concerné par ce qui se passe en dessous de lui.
L'environnement est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir ou interagir entre les organismes vivants et sur les activités humaines, ajoute le professeur Jean-Pierre Béat, environnementaliste. Selon cet enseignant, nous oublions souvent un aspect important de la vie qui est notamment la promotion de la santé environnementale.
Oui, en réalité, souvent on oublie un aspect important de la santé qui est la santé environnementale. Qu'est-ce que c'est l'environnement? C'est les milieux de vie, c'est les modes de vie et les styles de vie.
Mmh.
Les milieux de vie, c'est quoi? C'est l'air, l'eau et le sol.
Oui.
Les modes de vie, comment...
L'habitat.
Les modes de vie, comment nous menons notre vie dans la gestion des déchets, n'est-ce pas? Les styles de vie, dans les gaspillages, comment beaucoup de gens gaspillent les biens maintenant et utilisent beaucoup de ressources environnementales. Et tout ça, ça fait partie de l'environnement. Et l'environnement est en amont. Et une sorte de prévention. Les médecins, c'est en aval. Parce que quand quelqu'un est malade, il faut lui poser la question, qu'est-ce qui se trouve dans son environnement? Un exemple très simple, quelqu'un a la diarrhée. Quand il arrive chez le médecin lui pose des questions, l'anamnèse comme ils le font, mais rarement il pose des questions sur la qualité de l'eau qu'il consomme, sur la qualité de l'air dans lequel il se trouve, et même il ne pose pas de questions sur les animaux domestiques qui est en train de l'environner. Par exemple, dans nos villages, vous voyez des gens vivent avec des animaux, des chats et des chiens, voire même des poules. Alors, les médecins ne posent jamais cette question-là pour savoir où est l'origine vraiment de la maladie que le patient apporte.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes en train de suivre le magazine Code de développement sur Radio Okapi qui s'intéresse à la santé vu sous son aspect médecine humaine, médecine vétérinaire et environnementale en RDC. Nous devons savoir qu'il existe plusieurs maladies d'origine animale auxquelles l'homme est très sensible. D'autres maladies à transmission essentiellement interhumaine circulent en des réservoirs animaux identifiés et peuvent causer de graves crises sanitaires. Citons par exemple les cas de la maladie à virus Ebola. Ces risques s'accentuent avec la mondialisation, les changements climatiques, ainsi que les modifications des comportements humains qui offrent de nombreuses opportunités à certains virus de coloniser des territoires inhabituels et d'évoluer sous de nouvelles formes selon plusieurs spécialistes. Pour toutes ces raisons, le professeur Corneille Ouango affirme qu'il existe bel et bien un lien entre l'homme, l'animal et les écosystèmes. Nous devons tenir compte de ces trois facteurs pour garantir une seule santé.
Nous sommes des êtres vivants qui sommes liés. Il y a des interactions. Donc si vous avez un chien, vous développez entre vous et votre chien ou votre chat un lien. Donc l'animal vous reconnaît et vous le reconnaissez aussi. Donc et en cela... Il peut y avoir aussi des interactions de maladies, par exemple. Ça, c'est un lien important. Est-ce qu'il faut avoir un chien qui va vous apporter la rage alors que vous pouvez l'entretenir pour éviter qu'il soit contaminé de rage et qu'un jour, s'il vous mord, vous pouvez mourir de cette rage. Voilà un exemple si simple. Donc, il y a un lien entre nous, l'environnement et les animaux domestiques. Est-ce que nous devons avoir, par exemple, dans nos maisons, dans nos parcelles, avoir développé par exemple des fermes avicoles sans que nous puissions les entretenir. Est-ce que nous pouvons avoir des chèvres ou des... Non, je crois que nous devons avoir des fermes, des animaux domestiques, loin des maisons, loin des habitations, mais avoir les animaux de compagnie qui sont comme les chats et chiens et que nous pouvons avoir avec nous, mais à un nombre assez limité, mais ils sont si soumis régulièrement à des examens vétérinaires pour qu'ils ne deviennent pas contaminés. Je vois par exemple, les gens prennent aussi l'élix d'avoir certains primates chez eux, à la maison, dans la parcelle. Mais ils oublient que les primates sont aussi les vecteurs d'Ebola. Bon, Dieu merci, ça nous protège, que nous ne pouvons pas, ça ne se déclenche pas dans des grandes villes, ça se déclenche malheureusement dans des campagnes où même on n'a pas... Ce genre de comportement. Mais ce sont des risques énormes. Ce n'est pas pour rien qu'on démarque, par exemple, on crée des zoos pour avoir des animaux dans un environnement où ils sont contrôlés, ils sont soignés pour qu'il n'y ait pas de vecteurs. Parce qu'ils sont porteurs de vecteurs. Nous sommes aussi porteurs de vecteurs. Et il peut y avoir des échanges de vecteurs dans des interactions. Donc il y a un lien étroit parce que nous sommes tous dans un écosystème.
Et il faudra aussi au sein de la communauté que les environnementalistes, les médecins et les vétérinaires puissent travailler en synergie.
Ils doivent nécessairement travailler en synergie. Ce sont des services qui ne peuvent pas se séparer.
Qui sont complémentaires.
Mais qui sont étroitement liés et complémentaires les uns des autres.
Oui.
Mais le malheur est que on voit maintenant, parce qu'il y a Ebola, bon, les services d'hygiène aux frontières se comportent comme un service spécial, ils ne voient pas les autres. C'est les services d'hygiène. Est-ce qu'il faut réglementer l'hygiène quand il y a une épidémie? Mais non. Regarde par exemple la ville. Nous n'avons pas de latrine publique. Mais ça, c'est une question importante qui touche à l'environnement. Et nous devons raisonner sur toutes ces questions d'importance et qui sont étroitement dépendantes de notre vie et de notre bien-être.
Pour sa part, le professeur Jean-Pierre Béat soutient que la surveillance épidémiologique est une activité de santé publique à ne pas négliger dans la promotion d'une seule santé. Il faut collecter de façon permanente des informations dans les domaines de la santé humaine, de la santé animale et des écosystèmes, ajoute ce spécialiste en environnement.
Selon moi, en tant qu'environnementaliste, il doit y avoir trois étapes. Première étape, la surveillance épidémiologique. Surveiller l'épidémie. C'est-à-dire que dans la surveillance épidémiologique, vous avez les vétérinaires qui surveillent les états et les santé des animaux. Les environnementalistes qui suivent les états de l'environnement, c'est-à-dire la qualité de l'eau, de l'air, des sols et des climats. Parce que souvent, on oublie les climats. Et les médecins qui, après avoir reçu les rapports de tous les environnementalistes et vétérinaires, tirent des conclusions, même s'il n'y a pas d'épidémie. Parce que souvent,
quand il faut qu'il y ait une veille de l'information quotidienne, une mise à jour,
périodique, oui. Ils doivent se retrouver même à la fin de chaque mois. On dit, mais qu'est-ce que nous avons observé? Environnementaliste, nous avons observé quoi? Qualité de l'eau, de l'air, des sols. Alors nous avons observé ça. Et l'eau n'est pas dans les normes. Parce que chaque partie de l'environnement possède des normes. Nous avons les normes de qualité de l'eau, nous avons les normes de qualité de l'air, et nous avons les normes de qualité des sols. Nous avons même les normes climatiques. Hein, vous voyez maintenant, les températures sont plus élevées. Mais quand nous observons que les températures sont arrivées à 45 degrés, ah mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe puisque les températures sont élevées?
Quelles
précautions prendre? Et si nous constatons que dans l'eau, il y a beaucoup de maladies, nous constatons qu'il y a beaucoup de maladies hydriques, des diarrhées, des choléras. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est en amont. Et le vétérinaire se rend compte que il y a beaucoup de maladies comme des rages, les animaux meurent des rages ou d'autres types de maladies ou de types de zoonoses. Il doit informer les gens. Après cette information, les acteurs des trois santé se réunissent pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la prévention, la surveillance. Après la surveillance, pendant la surveillance, il peut y avoir des alertes qu'on appelle alertes épidémiologiques. Souvent on dit vaut mieux un faux alerte que le vrai. Alors si on constate qu'il y a un peu d'exagération de tous ces paramètres là, on peut faire une alerte. Avec cette alerte maintenant, et on commence maintenant à voir comment traiter les gens et diriger l'épidémie. Maintenant ça c'est la première étape avant l'épidémie, mais pendant l'épidémie. L'épidémie déjà déclarée après l'alerte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut contacter? Alors, il faut des ripostes. Qui constitue l'équipe des ripostes? Environnementalistes, vétérinaires, médecins.
Pas uniquement des médecins,
mais
des sociologues.
Dans notre pays, c'est les médecins quand ça arrive, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et tout un tas de gens qui s'accaparent, évidemment. Allez-y comprendre, il y a peut-être à boire, à manger, mais il y a des ripostes. Ah, c'est le grand travail des postes. On va prendre des dispositions. Mettre des gens en quarantaine, ainsi de suite, tant que les épidémiologistes connaissent ces problèmes. Maintenant, après l'épidémie, on va pas croiser les bras. Il faut maintenant faire des rapports. Il faut pas que cette épidémie revienne. Pourquoi l'épidémie est arrivée? Pour quelles raisons? On identifie les causes, n'est-ce pas, de l'épidémie ou des épidémies. Alors, on essaie un peu de corriger pendant la riposte. Qu'est-ce que c'est, où étaient les problèmes, quel domaine a failli, qu'est-ce qui n'a pas marché. On fait des rapports pour que prochainement cette épidémie n'arrive pas. Évidemment, on trouve pendant ce temps, pendant la riposte, on trouve des vaccins, on trouve ceci, cela, c'est très bien. Mais l'essentiel, il faut prévoir avant l'épidémie, faire des ripostes pendant l'épidémie et faire des rapports, voir comment cette épidémie ne peut pas revenir encore dans les circuits, dans la population.
La surveillance intégrée est un travail qui doit être permanent, renchéri docteur Florent Gamouna. Nous rappelons qu'il est médecin vétérinaire.
La surveillance des animaux, la surveillance humaine, la surveillance intégrée, comme on le dit maintenant, la surveillance communautaire, c'est un travail de fond qui doit être permanent. C'est l'état de veille, de surveillance qui doit continuer, de telle sorte qu'on soit capable de détecter à temps s'il y a un problème qui pourrait survenir. Vous voyez par exemple la faune sauvage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sait qu'il y a certains animaux qui sont des porteurs sains, qui sont des réservoirs. Mais ces animaux-là, il faut les surveiller. Il faut une surveillance active. On doit pouvoir arriver... S'il y a des chauves-souris qu'on peut attraper, prélever les sangs et analyser au laboratoire pour voir le taux de circulation du virus, etc., pour être sûr qu'en ce moment ici, attention, l'épidémie est capable d'éclater parce que nous avons une circulation intense des virus, etc. Donc c'est ce travail-là qui n'est pas fait et qui aboutit à l'éclatement souvent de certaines épidémies.
Parce que vous, également, il y a également des maladies périodiques chez les animaux, oui. En saison sèche, en saison des pluies. Oui. Et si vous anticipez, c'est facile aussi de couper la chaîne de contamination, de transmission de la maladie.
Maintenant même, on ne sait pas, on n'a pas encore défini exactement le nombre de réservoirs. On sait qu'il y a les primates non humains, donc les singes, certains singes. On sait qu'il y a la chauve-souris frugivore. Mais les cochons, qui est un animal de prédilection pour tous les microbes possibles, est-ce qu'il n'est pas porteur? Il y a un soupçon dans ce sens-là. Mais qui va travailler? Le grand problème, c'est que nous sommes en Afrique, nous sommes en RDC, où les moyens pour la recherche sont limités. Qui va faire la recherche, n'est-ce pas? Quand vous suivez le cheminement du travail du grand professeur Muyembe, il a dû mettre même sa main en poche pour pouvoir arriver à faire le travail qu'il a fait et qui a abouti à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a ce problème-là des moyens financiers pour la recherche, pour continuer à un état de veille permanent. C'est ce travail que les décideurs doivent comprendre pour injecter.
Les spécialistes de la médecine humaine et les experts de la médecine vétérinaire doivent travailler ensemble pour garantir une seule santé, ajoute le médecin vétérinaire Florent Gamouna.
En fait, quand vous êtes sur terrain, il se dessine clairement qu'est-ce que le médecin vétérinaire doit faire, qu'est-ce que le médecin des hôpitaux doit faire, qu'est-ce que l'environnementaliste doit faire. En fait, les rôles sont très clairs, de par la formation qu'on reçoit. Mais le problème, c'est parfois des complexes inutiles qui amènent certains individus à pouvoir créer des problèmes là où on n'y a pas. Mais quand on est dans l'ensemble bien informé sur le travail qu'on doit faire, ce n'est pas le médecin qui viendra à lutter contre les maladies animales, la peste des petits ruminants par exemple, la peste porcine africaine, etc. Non. Et ce n'est pas le médecin vétérinaire qui va injecter les gens dans les cas d'Ebola, sauf s'il y a vraiment une crise accrue, on peut l'utiliser dans ce sens-là, mais c'est surtout le travail du médecin des hôpitaux. Et du côté de l'assainissement, ce n'est pas le médecin vétérinaire qui va faire l'assainissement, il y a l'environnementaliste qui est là pour faire l'assainissement, pour arriver à assainir les milieux, pour que nous puissions avoir un taux réduit d'infection, par exemple du paludisme.
Et pour que l'approche santé pour tous soit efficace, qu'est-ce que vous proposez en tant que spécialiste, docteur?
Il y a d'abord le problème de la multisectorialité. Donc, il faut qu'on arrive à mettre au point des comités multisectoriels par rapport aux maladies en général et par rapport à certaines maladies ciblées. Par exemple, le cas d'Ebola. Il faudrait qu'il y ait une multisectorialité, c'est-à-dire qu'un comité national où on retrouve les trois
toutes les spécialités
qui sont là pour discuter. Parce que maintenant, par exemple, à Goma, c'est bien d'appeler le PAM pour donner à manger. Mais cet argent pouvait être utilisé pour susciter une meilleure production. Parce que quand les PAM ne donnera plus à manger, ces gens vont faire quoi?
Ils vont aller dans la forêt chercher
voilà, justement. Donc, c'est ce travail-là de fond qui doit être fait et ça doit se faire dans cette interconnexion, comme vous avez dit au début, entre les spécialistes. Et moi, je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait un comité multisectoriel au niveau national et que ce comité soit, ait des tentacules au niveau des provinces, au niveau du milieu opérationnel, de telle sorte qu'on arrive vraiment à gérer le problème d'une façon tout à fait correct. Parce que aujourd'hui, nous avons la 10e épisode. Qu'est-ce que nous allons attendre? La 11e épisode?
La 12e?
La 12e pour réagir? Non. Il faut qu'en amont, qu'il y ait un travail qui se fasse. Et ce travail-là, c'est la gestion, n'est-ce pas, de l'interface homme-animal. Ça, c'est un. Des deux, il faut qu'au niveau de la population même, les populations rurales qui sont souvent à la base de l'éclatement des épidémies, que ces gens-là soient capables de s'autosuffire par rapport à l'alimentation. Il faut qu'ils produisent. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher en forêt, qu'il y ait la chasse, n'est-ce pas, chercher à avoir du gibier en forêt. Mais s'ils ont à manger au niveau du village, ils n'iront plus en forêt. Et d'ailleurs, nous avons un problème de protéger la faune qui ne doit pas disparaître, parce que si de plus en plus il y a des animaux protégés dans la faune sauvage.
Il faut également associer dans la démarche les experts en médecine traditionnelle, L'environnementaliste Jean-Pierre Béat regrette le fait que cette expertise est souvent mise à l'écart, que ce soit dans le secteur de la médecine humaine et vétérinaire. Et pourtant, c'est une spécialité qui mérite une collaboration parfaite avec la médecine classique, car ce type de médecine trouve également son fondement dans les écosystèmes.
La médecine traditionnelle est toujours mise à part dans ce processus de santé. Et vous n'allez pas entendre parler, quand on fait la riposte de les épidémies que le médecin traditionnel
sont associés.
Parce qu'il n'y a pas la santé moderne ni la santé traditionnelle. Hein. La santé, c'est la santé.
Une seule santé.
Oui. Alors, il faudrait associer, par exemple, les médecins traditionnels du coin, où se trouvent
les guérisseurs les plus écoutés
de la maladie. Et ça, c'est une hypothèse que j'ai toujours soutenue. Quand une épidémie ou une maladie arrive à un endroit bien donné, c'est à cet endroit qu'il y a les médicaments. Il n'y a pas autre chose. Si le plan, j'ai toujours posé cette hypothèse. Aujourd'hui, par exemple, une épidémie arrive dans un endroit de choléra. Mais la nature a fait que les médicaments ou la solution à cette épidémie se trouvent à cet endroit, pas ailleurs.
Le contrôle de tous les pathogènes transmissibles de l'animal à l'homme et vice-versa est la solution la plus efficace et la plus durable pour protéger l'homme. Par conséquent, la protection de la santé publique par l'élaboration des stratégies de prévention et de contrôle des pathogènes coordonnés concernant l'homme, l'animal et les écosystèmes est très capitale. Au niveau des ménages, il faut toujours prendre des précautions lorsque vous détenez certains animaux de compagnie ou certains animaux sauvages. Ceci permet de prévenir l'éclosion ou la transmission des maladies de l'homme à l'animal ou inversement, conclut Dr Pierre Verhaegh. Nous rappelons qu'il est médecin vétérinaire à la clinique Laquinoise.
Je pense que la première chose à faire, c'est réfléchir au problème d'adopter un animal issu du milieu sauvage. Parce que, d'une part, il y a un aspect purement écologique. Pour avoir un petit singe chez soi, il a fallu aller dans la forêt. Il a fallu abattre toute une série de singes. On a récupéré un certain nombre de petits. Un certain nombre d'entre eux sont morts en cours de route. Et puis finalement, ils arrivent à Kinshasa. Ils sont adoptés. Certains vont survivre, d'autres vont mourir. Et pour un qui survivra effectivement dans son milieu d'adoption, combien de victimes y a-t-il eu? Ça, c'est déjà une première question. Parce que ça aboutit à la déplétion de la nature en certaines espèces, éventuellement. Parlons des célèbres bonobos, les chimpanzés, et puis tous les petits cercopithèques qu'on voit sur le bord de la route, Mangabe et compagnie. Le problème est le même. En plus de ça, certains de ces animaux, notamment dans la famille des cercopithèques, on a découvert récemment une trentaine de virus du groupe des rétrovirus, c'est-à-dire les virus du groupe du sida. Ces 30 virus, on ne sait pas encore s'ils peuvent provoquer des pathologies chez les singes ou pas, et s'ils sont transmissibles aux humains ou pas, et s'ils sont transmissibles, s'ils peuvent provoquer une maladie. Et vous allez offrir un petit singe comme ça à un enfant, comme si c'était une poupée vivante, vous lui mettez une bombe à retardement entre les mains. Il faut réfléchir à ça.
Sur la réglementation.
Il faut réfléchir, d'abord, je dirais, en dehors même de toute réglementation, sur la base de la logique, du raisonnement. Je prends un animal sauvage, je ne sais pas ce qu'il a dans le corps, et je vais le mettre entre les mains de mon enfant, qui risque, en exagérant peut-être un petit peu, d'être à la base d'une épidémie mondiale. Donc, il faut raisonner dans ce cadre-là. Je pense qu'on peut avoir suffisamment de plaisir avec des animaux dits domestiques, c'est-à-dire qui sont élevés et connus depuis des siècles et qui sont sortis de ce contexte sauvage avec tous les points d'interrogation qu'il y a autour, et on peut trouver son bonheur avec un lapin, une poule, un mouton, un chien, un chat et pas ça.
C'est avec ces quelques suggestions du médecin vétérinaire Pierre Verhaegh que nous clôturons votre magazine Écho du développement consacré à la santé vue sous son aspect médecine humaine, médecine vétérinaire et les domaines de l'environnement qui s'est traduit par les concepts une seule santé. Ce magazine vous a été présenté par Tati Mafoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Mimi Kindou était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Codes du développement. À bientôt.